C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Ça ferait un magnifique sujet du bac philo. Souvent, c'est sur la liberté. Il y a toujours un petit sujet qui traîne sur la liberté. La liberté doit-elle être libérée ? Il y a des terminales dans l'Assemblée, là. Qu'est-ce qu'ils auraient répondu à ça ? De quoi est-ce que la liberté a besoin d'être libérée ? Bon. Manière plus concrète, les 5 nouveaux ordonnés de la semaine dernière à Sainte-Anne étaient-ils libres ? Restent-ils libres ? Vu qu'ils se sont engagés, ils sont plus libres, enfin ils sont liés. Bon, il y a des questions, hein. Quand on lit cette page, le 5e chapitre de l'Épître aux Galates de saint Paul, ça fait partie de ces pages-là, et il nous en offre plusieurs, hein, où on pourrait lire ce passage en 2 colonnes. Voyez ce qui relève de la liberté, voyez ce qui relève de l'esclavage. Alors, ce qui est de l'ordre de la liberté, saint Paul va nous dire, c'est le service. Mettez-vous au service les uns des autres. Souvent, quand on rend un service à quelqu'un, on est un peu lié, on est un peu esclave, surtout s'il nous en demande un peu plus que ce qui était prévu. L'égoïsme, ça c'est de l'ordre de l'esclavage. Alors que, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, c'est un peu une définition de la liberté, on a un peu ça. Et c'est de l'esclavage. Vous voyez, derrière la notion de service, qui est de l'ordre de la liberté, saint Paul, il s'inscrit dans toute cette grande tradition biblique du service, du serviteur, le serviteur souffrant d'Isaïe. Un exemple d'homme libre, et que vient accomplir justement Jésus à travers sa passion. Si on faisait un petit sondage, qu'on allait dans la rue après la messe, et qu'on allait sonder un peu les passants, et qu'on posait cette question, le chrétien est-il un homme libre ? Ce serait quoi les réponses ? Oui, non, ouais, peut-être, ouais, sous certains aspects. Ça pose des questions. À quoi est-ce qu'on reconnaît un homme libre ? Que le chrétien est libre ? 2 caractéristiques. Vous allez voir, c'est très simple. C'est la fin d'année, c'est mon niveau de fin d'année. Il est libéré de et il est libéré pour. Ça va ? Ça va être très simple. Vous retenez que ça et ça ira très bien. Il est libéré de. Il est libéré de l'esclavage. L'esclavage du péché. On a une belle page d'évangile. Souvent, on ne sait pas bien comment la lire, ces 3 appels de ces 3 personnes sur le chemin de Jérusalem. On ne sait pas trop comment s'en dépatouiller, mais on voit que ça touche à quelque chose de nous défaire de nos liens, de nous défaire de nos attaches, et quelque part de nous libérer. Moi, je lirais cette page d'évangile, à travers les 3 conseils évangéliques. Vous connaissez les 3 conseils évangéliques ? Non ? Non. 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 Voilà. On n'enseigne plus rien au catéchisme. C'est dramatique. C'est les 3 vœux des religieux. Si je vous dis pauvreté, obéissance, chasteté, ça parle à tout le monde. Et vous dites, ça c'est réservé aux religieux. Non, c'est un conseil évangélique. C'est pour tout chrétien. Et donc, qui dit pauvreté, obéissance, chasteté, voilà 3 lieux. 3 lieux qui nous sont offerts pour nous libérer de nos attaches, pour nous libérer de ce qui nous aliène, de ce qui nous esclavagise, je sais pas quoi. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Il n'a pas. Ça veut dire qu'il est pauvre. Ça veut dire que le chrétien qui est le disciple du Christ, qui est le disciple du Fils de l'homme, il vit une certaine modestie de vie. Vous voyez que les conseils évangéliques sont vraiment incarnés dans notre état de vie. La chasteté d'une religieuse, pour prendre une chose un peu comme ça, la chasteté d'une religieuse n'est pas la même chasteté qu'un couple. Voilà. C'est pas la même chose. Donc c'est à incarner dans notre vie. Pareil pour la pauvreté, pareil pour l'obéissance. Et donc la pauvreté, c'est une certaine modestie de vie. c'est aussi quelque part de me laisser déplacer. Me laisser déplacer par Dieu. Parce que Dieu sera toujours plus grand. Parce que Dieu, à un moment donné, et ça, les personnes plus âgées qui ont une certaine expérience de la vie spirituelle, le savent bien, hein, Dieu nous emmène là où nous ne voudrions pas aller. C'est l'expérience de Saint Pierre à la fin de l'évangile de Jean, où Jésus lui dit, mais quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et t'allais où tu voulais. Ben, quand tu seras plus vieux, eh ben, tu verras, c'est un autre qui te mettra ta ceinture et il t'emmènera là où tu ne voudrais pas aller. Eh ben, quelque part, Dieu nous emmène, Dieu nous déplace et nous emmène là où nous ne voulons pas aller, a priori. Le lieu où le Fils de l'homme repose, ça s'appelle la croix. Et a priori, on ne veut pas aller. Deuxième appel, deuxième petite histoire, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui a dit « Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. » Et donc, c'est la question de l'obéissance. À qui et à quoi est-ce que j'obéis dans ma vie? Est-ce que je vais obéir au monde, à la mode, au regard des autres, ou est-ce que je vais obéir à ma conscience morale qui est habitée par l'Esprit-Saint? Et donc, à qui, à quoi est-ce que j'obéis? Troisième appel, laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. C'est la question de la chasteté, dans le sens où ça touche aux relations. Laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison, c'est-à-dire à ceux dont je suis proche, où il y a de l'affection, il y a du sentiment, je suis attaché. La chasteté, c'est une question vraiment de justesse de relation. Est-ce que nos relations sont justes? Est-ce que je ne suis pas en train de jouer un rôle? Est-ce que je ne suis pas dans une espèce de séduction ou de petit jeu comme ça? Ou en fait, je ne suis pas moi. Et si je ne suis pas moi, je ne suis pas chaste. Je reviens sur la question du d'abord. On l'entend deux fois dans l'Évangile. « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Laisse-moi d'abord faire mes adieux. » D'abord quoi? Est-ce qu'il y a un d'abord qui prime sur le royaume de Dieu? Cherchez d'abord le royaume, on entend dans l'évangile de Matthieu, cherchez d'abord le royaume et tout cela vous sera donné par surcroît. Les jeunes, quand on vous appelle à faire un petit service, viens mettre la table, non, je dois d'abord, il y a beaucoup de d'abord à ce moment-là, tiens. Quand je dois rendre un service, il y a des d'abord qui viennent. Bon. Est-ce que c'est des vrais d'abord ou est-ce que c'est des faux d'abord? Élisée qui est en train de labourer ses 12 arpents. On imagine, hein, il a son grand champ, 12 arpents, bon, il en est au 12e. Il est en train de le faire. Il est en train d'achever, d'accomplir la plénitude de son travail humain. Et c'est le moment que Dieu a choisi pour envoyer Élie, appelé Élisée. Ben attends, mais laisse-moi d'abord finir mon chant. Enfin, c'est légitime. Enfin, voilà, enfin, j'en ai fait 11, j'en ai fait 11 et demi, 11 trois quarts, et tu m'appelles à ce moment-là. Laisse-moi d'abord. Alors Élie le laisse. Mais Dieu est plus exigeant qu'Élie. Jésus est plus exigeant qu'Élie. Il ne supporte pas le retard. Et quelque part, voilà, Dieu ne veut pas être aimé, il veut être préféré. Et donc, il ne va pas supporter ce retard. Laisse-moi d'abord, il n'y a pas de d'abord. Voilà, quelle libération j'ai besoin de vivre, de quel attachement j'ai besoin d'être libéré dans le sens de la pauvreté, dans le sens de l'obéissance, dans le sens de la chasteté. Alors, libéré d'eux, libéré pour. Pourquoi? Pour se donner, pour s'offrir. Le peuple qui est libéré de l'esclavage d'Égypte, d'accord, il est libéré de l'esclavage, mais il est surtout libéré pour faire alliance avec Dieu. pour entrer en terre promise, pour être témoin au milieu des nations. C'est ça qui prime. Libérer pour quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. Pâques, le baptême, c'est une libération du péché, mais pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quand même plus important que de te libérer du péché. Enfin, voilà, il faut l'un puis l'autre, mais c'est quand même ça qui est le but. Comme s'accomplissait, entendons-nous dans l'Évangile, le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé. Littéralement, il durcit son visage. Jésus prit la route de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il durcit son visage ? Parce qu'il monte vers sa passion. Et donc c'est le lieu où il va mettre toute son énergie, toute sa personne, tout son être. À qui et à quoi est-ce que je donne mes forces ? J'investis mon énergie. Vous voyez, on a eu dans l'Évangile Jacques et Jean qui dit « Ouais, on va faire tomber le feu du ciel ». Jésus, il ne met pas son énergie à faire tomber le feu du ciel. Il met son énergie à vivre sa passion. C'est la saison des spectacles, des galas de danse, je ne sais quoi, des comédies musicales, des galas de gym et tout ça. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que tous ces jeunes, ils ont mis leur énergie, toute leur énergie, pour faire un beau spectacle. Ils ont travaillé dur, mais pourquoi ? Parce que c'est beau à la fin. Et donc je mets mon énergie, je mets toute ma force, tout mon temps pour un beau résultat. C'est ça l'idée. Quelque part, le grand service de Jésus, c'est justement d'offrir sa vie pour nous. On a une encyclique qui a parlé beaucoup de théologie morale et donc a parlé aussi de la liberté, la question de la liberté. Encyclique du pape Saint Jean-Paul II, qui disait, donc ça s'appelle « La splendeur de la vérité ». Le Christ crucifié révèle le sens authentique de la liberté. Le Christ crucifié. Il le vit par le don total de lui-même et il appelle ses disciples à y participer. Voilà, que le Seigneur nous donne aujourd'hui une vraie liberté tournée vers le bien. Amen.